Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance. Bonjour à tous. Chers auditeurs, nous poursuivons la lecture du livre « Du Gospel à l'Évangile ». Itinéraire d'un gospel singer africain, Marcel Bungu, édition Odésime 2000. C'est en réalité un entretien entre Marcel Bungu lui-même et le journaliste Jacques Bonnadier, grand reporter provençal, journal auquel il a collaboré de 1964 à 1983, puis rédacteur en chef à l'hebdomadaire catholique Semaine Provence, de 1983 à 1986. À travers leur conversation à deux voix, nous découvrons un peu de la vie bien remplie de Marcel Bungu et de ses activités nombreuses. Chanteur, compositeur, chef de chorale, pasteur. Parti du Congo-Brazzaville, sa carrière l'a amené à beaucoup circuler en Europe d'abord, puis autour du monde, après quoi il s'est installé à Paris comme pasteur. Dans notre dernière lecture, nous l'avons laissé à la tête d'un groupe qui s'est appelé les Perles, puis les Palata Singers. Nous faisons des lectures, puis nous allons trouver des pages de photos. La plus grande partie étant sous-titrée, je vais me permettre de vous dire et de vous lire ces sous-titres et de tenter de vous dire quelques mots sur chacune des photos. Je vais reprendre la lecture après ces pages de photos et la suite du texte et la fin de la réponse de Marcel Bungu sur une question précédente. Donc, je reprends ma lecture. Chapitre 5. Nous avons tous le sang rouge. Tous, en ayant décidé de faire le métier de chanteur, avec ce que cela implique d'abnégation, de sacrifice, parfois de concession et de compromis, j'imagine que tous les quatre, vous ne perdiez pas de vue votre engagement chrétien. Bien entendu. Et tous les quatre, nous étions sur la même longueur d'onde. Nous avions un même but, celui de propager l'Évangile dans les milieux profanes comme dans les milieux chrétiens. Partout où nous passions, c'est ce que nous faisions. Parfois, nous étions tentés de faire aussi autre chose. Je veux dire, de chanter autre chose que du spiritual gospel. Nous avons reçu des propositions en ce sens. Moi-même, à un moment donné, j'ai fait le crooner. J'ai chanté dans des groupes de jazz et de variété américaine. Comme nos aînés, d'ailleurs. Les Golden Gate chantaient aussi du jazz. Ils passaient dans des cabarets. Au Palata, on se disait, pourquoi ne pas faire la même chose? Après tout, cela faisait aussi partie de notre métier de chanteur. Et il n'y avait rien là de sacrilège ni d'illégitime. Nous sommes donc passés au cabaret, notamment dans un endroit mythique qui s'appelait la Ville d'Est, où nous sommes restés 6 ans. Nous y donnions un répertoire de spirituals et de gospel, mais en y ajoutant des chansons comme « My Way » ou « Only You », on nous présentait comme des chanteurs de spirituals et de gospel, et le public nous acceptait comme tel. Le directeur de la Villa d'Est était ravi. Il nous disait « Les variétés, c'est bien, mais ce que j'aime d'abord, ce sont vos chants religieux en congolais, ça, c'est vous !» Chemin faisant, chantant tous les jours le négro spirituel et le gospel qui faisaient partie de votre engagement de chrétien et du tissu en particulier, et du tien en particulier, dans quelle mesure cela a-t-il retenti sur ta foi? L'a-t-il influencé? Cela aura pu t'en détourner, à force de trop en faire? C'est vrai, j'ai traversé une période durant laquelle j'ai eu le sentiment de perdre ma foi. Le chant prenait plus de place que la foi, et celle-ci était presque sur le point de s'écrouler. chanter devenait un fardeau. Il m'arrivait, après les concerts, de rentrer chez moi pas bien du tout. Je n'avais plus le feu sacré. La cause en était la saturation, sans doute, mais surtout la vie que je menais et qui n'était plus compatible avec ce que je chantais. Dieu me montrait clairement que je ne pouvais pas le servir en vivant en contradiction avec ce que je proclamais. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions et à en poser au Seigneur. Je me suis souvenue de sa parole. « Dans les temps de détresse, invoque-moi, je te répondrai. » Et Dieu s'est révélé à moi pour me dire « Si je t'ai donné ce talent, c'est pour me servir, mais le talent n'est pas plus grand que le maître du talent. » Il a fallu que je me repositionne, que je reconsidère ma foi, en qui je crois, et pourquoi dois-je le servir. Quand cet épisode se situe-t-il dans ta vie? En 1998. Mais le combat avait commencé bien avant, au début des années 1990. Je tournais beaucoup avec les palatas. C'était très dur. On n'avait plus de vie. Et cela m'a coûté la cassure de mon premier foyer. Et puis, j'ai réussi à me reprendre. Nous en parlerons plus tard. Est-ce que le négro spirituel et le gospel, que tu n'as cessé de servir ta vie durant, t'ont ouvert aux réalités historiques de l'esclavage noir aux États-Unis? Ou bien connaissais-tu l'histoire avant? Gospel song, une note. Le terme signifie littéralement « chant de l'Évangile ». Les gospel songs sont nés dans la cité Revival, le réveil urbain dans les années 1850. L'un des principaux créateurs de la musique gospel est Charles A. Tinley, 1851-1933. C'est lui qui élabora la forme du blues religieux, les gospel hymns, qui servirent de modèle aux compositeurs de chants gospel du XXe siècle. Le gospel est un composé d'hymnes évangéliques blancs, de chants congrégationnels et de musique profane noire, jazz et blues, empruntant airs et formes musicales aux chants populaires. Je connaissais l'histoire de l'esclavage noir avant d'entrer pleinement dans le chant religieux afro-américain. Je l'avais apprise au Congo en lisant des livres. J'en étais déjà imprégnée, mais ensuite, lorsque j'ai compris que la musique que j'interprétais venait des esclaves déportés en Amérique, je m'y suis évidemment intéressée de plus près. Tes parents, t'en avaient-ils parlé eux-mêmes? Non, c'est plutôt dans le milieu culturel que j'en ai entendu parler, notamment grâce au Centre culturel français où il y avait souvent des conférences, où l'on pouvait se documenter. On y rencontrait de temps en temps des groupes qui venaient d'Amérique pour chanter et qui nous parlaient de cette histoire-là. Au moment où tu te lançais dans le métier, quelqu'un comme Martin Luther King était-il un héros pour toi? Ah oui, vraiment! C'est quelqu'un qui m'a beaucoup interpellée par son message et par son combat. Il y a eu des moments ou lorsque je chantais « We shall overcome ». Juste une note à propos de ce chant. À l'origine, « Church Song »,« I will come someday », composé en 1901 par le révérend Charles Tinley, est devenu dans les années 60 l'hymne des marcheurs des droits civiques de Martin Luther King sous le titre « We shall overcome ». Il y a eu des moments où, lorsque je chantais « We shall overcome », je ne pouvais m'empêcher de pleurer en pensant à lui et au combat qui lui coûta la vie. J'ai suivi de près ce combat pour les droits civiques. À une époque, dans mes concerts, j'évoquais toujours cette période-là et je citais ces figures emblématiques, Martin Luther King et tous ceux qui avaient combattu non seulement pour les droits des Noirs, mais pour l'ensemble des droits humains. Et nous voici maintenant arrivés aux pages où se trouvent les photos dont je parlais tout à l'heure. Une première photo à Dolisy, c'était donc sa ville natale, en compagnie de ses parents, frères et sœurs et d'autres membres de sa famille. On voit son père, entre autres, et sa mère, Denise Masala. Ensuite, le temple protestant de l'église évangélique de Congo, dans cette même paroisse de Dolisy, en 1968. Une photo de Rachel, son épouse, c'était le jour de leur mariage, donc le couple, Marcel Bongou et Rachel. Et puis le groupe des perles, de gauche à droite, on voit Alphonse, Marcel, Gaspard, Bernard, à leur début à Brazzaville en 1979. Un peu plus loin, on les retrouve sous le nom de Palata Singers, en 1984. Une photo encore de famille, celle-ci, avec sa famille au mariage de sa petite-fille, Anaïde Cody, à Paris, le 2 août 2008. On le voit encore avec différentes personnes, en compagnie de Johan Pickens à Düsseldorf, en février 1997, ou encore avec le leader des Golden Gate. Il était chez Orlandus Wilson. Il y avait donc Orlandus Wilson, son épouse et un enfant, et Marcel Bongou. Avec Paul Brembley, lors d'un concert du Golden Gate Quartet à l'Olympia en 1990. On le trouve encore avec Greg Adams en 2008. En tournant la page, on le retrouve encore, cette fois-ci, avec le ministre de la Culture allemand au cours d'une réception en 1989. Lors d'un concert gospel pour 100 voix au Palais des Sports de Paris en 2000, et il est la voix solo. Orlandus Wilson lui-même. Ensuite Marcel Bongou avec Ron Kennelly. Compagnie de l'abbé Pierre au centre Emmaüs en 1995, en compagnie du pasteur Charles Dumas dans une église évangélique d'Évry en 1990. Et là, il est au chant alors que le pasteur de l'église joue du piano. À Amsterdam, avec 3 personnes de l'équipe de campagne de Billy Graham, on est en 1997. Une photo très impressionnante, avec un gros titre, International Top Acts, Ray Charles et Gospel Move Singers. Il est donc là, en compagnie de Ray Charles. Voici pour les photos. Et nous retrouvons maintenant la réponse qu'il avait commencée au sujet de l'influence de Martin Luther King. Dans les ateliers que j'animais et qui étaient ouverts à des gens de toutes couleurs et de toutes cultures, mon message était le même. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous le même sang rouge. Même si nous sommes différents de couleur, nous sommes tous les créatures de Dieu et nous avons tous la même valeur à ses yeux. Et aujourd'hui, quelle lecture fais-tu de ce qui se passe aux États-Unis sur le plan de l'accession personnelle de Noirs aux plus hautes fonctions? Ce qui arrive, on ne pouvait l'imaginer. Une personnalité noire peut briguer la présidence des États-Unis. Mais ce qui est important pour moi, ce n'est pas le noir, c'est l'homme libre qui dit « Regardez-moi tel que je suis, non pas parce que je suis noir, mais parce que je suis un être humain. Nous sommes tous des fils de l'humanité et nous y avons tous notre place. Dieu seul est le maître de l'histoire et celle-ci se passe telle qu'il l'avait définie avant la création. Ce qui se passe fait partie du plan de Dieu. Toi-même, as-tu personnellement subi des manifestations de racisme?
J'ai été confrontée quelquefois à des propos racistes. Un exemple, j'ai été souvent amenée à diriger de grands groupes de choristes stagiaires où il n'y avait que des blancs. J'étais le seul noir. Mais je ne me voyais pas comme tel. Je me voyais simplement comme un homme qui vient apporter quelque chose aux autres. Un musicien, c'est tout. Jusqu'au jour où, à la fin d'une session, un des stagiaires est venu me voir et m'a dit ceci. Vraiment, il était temps que des blancs puissent être enseignés par un noir. Alors, j'ai tout de suite perçu que j'étais noir. Conclusion, c'est le regard de l'autre qui te fait différent. Si tu regardes l'autre avec les yeux du cœur, ça change tout, parce que c'est le regard que Dieu nous donne. Moi, j'aimerais avoir le regard avec lequel Dieu nous voit. Le propos de cet homme était sans doute un hommage dans sa bouche. Depuis ton arrivée en France, as-tu connu d'autres mésaventures liées à la couleur de ta peau?
Oui. Une fois, il y a une quinzaine d'années, j'étais en voiture avec trois amis. Les policiers laissaient passer tout le monde. Nous, ils nous ont arrêtés. Nous ont demandé nos papiers. Or, l'un d'entre nous n'avait en poche que la demande de son titre de séjour. Alors, l'un des policiers s'est emballé. « Qu'est-ce que vous venez nous embêter ici? Vous ne pouvez pas rester chez vous au lieu de venir noircir la France ?»«
Tu te doutes qu'on n'a pas laissé passer ça ?» On a répondu sans hésiter.
« Vous croyez qu'on est arrivé ici en pirogue ?»«
Non, monsieur, on est arrivé en avion. » »«
Et qui a fabriqué les avions ? Hein ? C'est vous ?» Si vous vouliez que nous ne venions pas ici, il ne fallait pas fabriquer des avions.
Quant à mes enfants qui sont café au lait, leur mère et moi, nous les avons éduqués à s'accepter eux-mêmes. On leur a dit, si on vous demande ce qui a poussé votre mère à épouser un noir, répondez que cette double culture constitue pour vous une richesse et que vous vous y sentez bien.
Tu es venu en France en 1981 avec les Palata, et tu y es resté. Ton statut d'artiste ne t'a-t-il pas valu cependant un traitement privilégié?
Il ne faut pas croire que cela a toujours été facile. Il y a des endroits où l'on nous a fermé la porte au nez parce que nous étions noirs. Un producteur nous avait sollicité pour un spectacle de féerie aquatique, au cours duquel nous devions faire un tour de chant. C'était dans le midi de la France, il y a une quinzaine d'années. Les organisateurs ont dit « On veut le spectacle, pas les Noirs !» À quoi le producteur a répondu « Vous prenez le spectacle tel qu'il est ou vous n'avez rien. »
Et quoi de plus grave ?
Rien, et c'est une grâce. Note que je ne prête pas trop attention à ce qui est négatif. Je préfère passer outre et continuer mon chemin en m'attachant à regarder ce qu'il y a de bon et de beau. Cela dit, je dois dire que le chant nous a tout de même beaucoup favorisés. Nous avons fait de grandes rencontres. Nous avons été reçus dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. En Belgique, par exemple, nous avons été reçus chez des duchesses. Tu me vois à table à côté d'une duchesse? Et puis, nous avons fait des tournées en Europe dans des régions réputées racistes où nous avons été acceptés parce que nous étions chanteurs. Je me souviens d'un passage dans une ville d'Autriche. Le jour, dans la rue, tout le monde se retournait sur nous pour nous regarder, comme si les gens de ce pays n'avaient jamais vu un noir de leur vie. Mais le soir, la salle était bondée et les gens nous ont accueillis superbement. Ils voulaient tous nous inviter à boire. En fait, on a compris pourquoi. c'est qu'ils ne savaient pas que nous étions Africains. Ils nous prenaient pour des Noirs américains. Normal, les Américains noirs ont une aura nettement supérieure, à cause du jazz, sans doute, et ils ont une plus grande renommée. Au point qu'étant invité il y a quelques années à chanter à Monte-Carlo, j'ai reçu la consigne de ne pas dire un mot en français et de ne parler que l'anglais. Question de standing. Une dernière question à ce propos. Dans une émission de radio te concernant, j'ai entendu une auditrice demander comment les Noirs d'Amérique pouvaient louer un Dieu qui, disait-elle, leur a été imposé à coups de cravache et qui ne leur appartient pas. Que réponds-tu à cela ? À coups de cravache, c'est vrai, mais ils l'ont découvert, ce Dieu-là, et ils ont découvert qu'il était un bon Dieu. Et ils ont dit « Oui, ce Dieu, nous allons l'adorer ». Quand ils ont lu les histoires de la Bible, ils y ont vu que des gens comme eux avaient été, comme eux, déportés en terre étrangère, que ces gens avaient invoqué Dieu et que Moïse les avait sortis de là. Et ils se sont dit « C'est ce Dieu que nous voulons. Il va, nous aussi, nous sortir de la misère. » Bien sûr, on le leur a inculqué, mais ils se le sont approprié. Et cela faisait partie du plan de Dieu, comme l'histoire de l'humanité. Chapitre 6. Du gospel plutôt que des sermons. Quittons le Congo pour évoquer ton arrivée en France en 1981. Pour quelles raisons ce voyage ? Des raisons artistiques ? Oui, après le concert des Palata au Festival de musique populaire en Allemagne de l'Est, et leur distinction par le premier prix du jury, nous nous sommes dit pourquoi ne pas profiter de notre passage sur le sol européen pour aller faire un tour à Paris. Nous sommes donc venus en France et nous avons commencé à prospecter. Nous avons connu des hommes de radio et parmi eux un grand journaliste congolais qui avait travaillé à Radio France Internationale, Alphonse Marie Toukas, rencontré par hasard dans une rue de Paris près de l'Arc de Triomphe. À partir de ce moment-là, nous avons pris des contacts un peu partout, dans les églises en particulier, ce qui ne nous empêchait pas de faire la manche pour le plaisir, sur la place de Beaubourg, par exemple. Et puis on a commencé à nous solliciter. Nous sommes allés chanter en Belgique. Notre séjour en France a duré 6 mois, mais nous avions l'intention de repartir au Congo. Et nous avons fini par y retourner. Moyennant quoi ? De nouveaux appels nous sont très rapidement parvenus. Revenez ! Et nous revoilà donc en France,
en 1992, toujours sans véritable intention d'y rester longtemps. Des tournées nous sollicitaient. On verrait bien ensuite ce qui se passerait. Nous avons fait notre première tournée sous l'égide du service d'entraide et de liaison, le SEL, S-E-L, organisme protestant d'entraide que dirigeait alors le pasteur Gauthier de Smith. Une tournée d'un mois et demi dans toute la France. Après quoi, nous nous sommes interrogés. Il y avait du travail, nous étions très demandés, mais que faire ? Certains voulaient rentrer au pays, c'était mon cas, d'autres voulaient rester. Il y avait des tiraillements entre nous. Finalement, nous sommes restés. Il a fallu alors s'organiser. Jusque-là, nous avions logé tous les quatre dans un foyer de l'Armée du Salut, puis chez le pasteur Richard Dahan, dans sa paroisse réformée d'Aulnay-sous-Bois. Enfin, dans un centre d'hébergement pour étrangers, toujours à Aulnay-sous-Bois. Mais au bout de quelques mois, je ne supportais plus ce mode de vie. J'ai trouvé un appartement à Paris, et les autres aussi. Nous avons fini par nous installer et à travailler de façon plus posée et professionnelle. 1982, c'est une année très importante pour nous, celle de notre rencontre avec Orlandus Wilson, le chanteur basse du Golden Gate Quartet, un des fondateurs historiques du groupe. Nous lui avons dit que nous cherchions quelqu'un pour nous aider et il a accepté de nous parrainer. Il nous a mis en contact avec l'homme qui s'occupait des dossiers du Golden Gate, Pascal Moreau, pour qu'il soit notre manager. Celui-ci a travaillé durant presque 15 ans avec nous. Tu avais laissé ta famille au Congo? Comment celle-ci a-t-elle perçu ton éloignement? Pour elle, le fait qu'un de ses membres s'installe en Europe, c'était le signe de la réussite. Tous étaient fiers de moi. Le problème était que je devais trouver le moyen de leur envoyer de l'argent. Ils considéraient l'Europe comme un paradis et moi comme le sauveur de la famille. Il y en avait même un qui m'appelait Joseph, en référence au fils de Jacob qui fut vendu par ses frères en Égypte avant de devenir l'intendant et le premier ministre du Pharaon. J'étais le Joseph de la famille. Donc, j'allais réussir et j'allais les aider. Et c'est ce que j'ai fait autant que j'ai pu. Nous sommes toujours restés en contact, malgré les difficultés et à travers des moments qui ont été très durs pour tous. Le décès de ma mère en 1985, celui d'un frère cadet, puis celui d'un frère aîné. Quand ma mère est partie, je n'ai pu d'abord le supporter. J'ai failli tout plaquer. Nous étions très proches l'un de l'autre. Il y avait une vraie intimité de mère à fils et nous étions aussi très liés spirituellement. J'ai mis longtemps à accepter ce départ. Pourquoi le choix de la France? C'était pour nous tout naturel. Il y avait d'abord l'histoire qui nous lie, la langue. Et puis l'incitation de Pascal Ardouin, un ami coopérant, qui travaillait au Centre culturel français. Celui-ci nous avait dit « Ce que vous faites est formidable. En France, ça va marcher. Quand vous partirez, contactez-moi, je vous aiderai. » La France n'était cependant pas le pays dont je rêvais. Je pensais plutôt à des pays scandinaves. J'avais des amitiés dans ces pays-là, avec des gens, avec des églises. J'avais des affinités. Et quelle image avais-tu de la France depuis le Congo? Quand je vivais au Congo, j'avais des amis qui avaient déjà fait le voyage et qui me disaient « La France, il faut y aller, mais il faut en revenir. » Ils me racontaient quelquefois les difficultés qu'ils y avaient rencontrées. Mais globalement, nous nous disions « La France, c'est la réussite. Si nous y allons, nous réussirons. » L'image n'était pas tout à fait juste. Lorsque nous y sommes arrivés, la réussite n'est pas venue tout de suite. Il nous a fallu beaucoup travailler. Nous ne connaissions personne.
Nous avons dû passer des nuits dans des endroits peu recommandables. Ce n'était pas facile. J'ai très vite compris que l'on ne réussit pas comme ça, en un claquement des mains. Et je t'avoue que j'ai eu envie de repartir. C'est avec ce départ pour la France que nous allons conclure aujourd'hui notre lecture du livre « Du gospel à l'évangile, itinéraire d'un gospel singer africain ». L'installation en France est un nouveau départ dans la vie de Marcel Bungou. Et c'est donc en France que nous le retrouverons avec les trois autres membres des Palata Singers dans le prochain épisode. Amis auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez réécouter tous les livres que je partage avec vous dans le podcast de la radio « Je lis pour vous » sur Radio Alliance Plus. Et à bientôt, chers auditeurs.